Buckley disait qu'il avait 5 octaves. Je ne crois pas, mais bon, ça c'est joli d'imaginer. En tout cas, son fils a au moins 4.
Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Et donc ça veut dire que les aigus et les maîtrises, mais d'une manière, la voix de tête est absolument époustouflante. Sa voix, c'est une merveille.
I used to play Led Zeppelin, you know, it's a 33 RPM thing. He played at 45. It was cool.
Don't let the sun beat down upon my face. I used to be my dream.
What?
Now I want someone badly.
Back in New York City.
Is everyone okay?
La série musicale.
Ça va?
Zoé Sfez.
Bonjour, nous sommes ensemble pour une émission toujours libre de toutes les histoires, de toutes les matières, de toutes les provenances. C'est une joie d'être ensemble. Une émission placée aujourd'hui sous le signe de la grâce. Une ode à l'une des plus belles voix du XXe siècle. J'ose, oui. Une heure de radio sur la musique. En musique, c'est la série musicale. Bienvenue. « 25 ans déjà que la voix précieuse de Jeff Buckley s'est éteinte une nuit de mai, engloutie par le fleuve Mississippi dans la fleur de sa 30e année. Cette voix qui ne nous a livré de son vivant qu'un seul et unique album. Et quel album ? Le somptueux, le disruptif « Grace » paru en 1993 et qui fait encore aujourd'hui l'objet d'un culte. Tant par cet album, Jeff Buckley a marqué l'histoire du rock par l'intelligence, la polymorphie si particulière de sa voix, comme on l'a entendu dans ce très beau mix d'introduction de notre réalisateur Nicolas Berger. Une voix totale, une voix libre, une voix que Jeff Buckley a façonnée, a libéré aussi des injonctions de genre, de texture, de style qui pesaient sur les chanteurs de rock en allant s'abreuver à tous les genres de musique possibles. Car s'il est l'homme d'un seul album original, Jeff Buckley est l'auteur de centaines, sans doute de milliers de reprises, d'Edith Piaf à Led Zeppelin en passant par la musique religieuse, reprises qui pendant longtemps ont constitué l'essentiel de son répertoire de scène. La plus célèbre, qui a tendance en France à éclipser toutes les autres, c'est bien sûr cette reprise de Alléluia de Leonard Cohen qu'on entend ici à la guitare et que je vous préviens, on n'entendra plus dans cette série musicale car on a à cœur aujourd'hui de vous faire entendre tout ce que cette voix de Jeff Buckley a su incarner, détourner, tout ce que lui doivent aussi ses successeurs de Radiohead à Coldplay et tous les autres. Épisode Jeff Buckley, la matrice de la grâce sur France Culture.
She cries to the kicking of massively beautiful album.
Un album d'une beauté massive. Quelqu'un nous a donné des rushs d'une pub télé. J'espère qu'on ne la verra jamais. Grace, c'est unanime, blablabla. Pas que ce soit mauvais, mais ce n'est qu'un premier album après tout, et on a beaucoup grandi depuis. Que l'impact soit si gros commercialement, ça n'a aucun sens. J'en ai marre des magazines, je ne les achète plus. Ils me fatiguent. Ils ne racontent rien. J'espère que les gens vont se calmer. Heureusement, nos fans sont totalement normaux, ils sont vachement cool, calmes. Mais les médias, les critiques de rock, ils ont dégommé plein d'amis super talentueux, ce qui démontre qu'ils n'ont aucun goût. Et dans plein de cas, ils ont détruit des gens qui ont fait des œuvres fabuleuses. Et puis quand je sors mon album, ils jubilent. C'est ça l'événement, comment puis-je leur faire confiance? Je ne peux me fier qu'à mes amis, à mon groupe et au public qui vient à mes concerts.
On voit la voix d'un jeune Jeff Buckley, plein de fougue. On est en 1995 et il s'épanche au micro de Valli pour France Inter au sortir de l'un de ses beaux concerts français. C'est un concert mythique qui a eu lieu au Bataclan. À ce moment-là, ça fait déjà un an que Jeff est en tournée dans le monde entier pour défendre ce premier album, Grace, inauguré par cette chanson éponyme que vous venez d'entendre, qui est parue un an avant au terme d'un travail de studio extrêmement long. Et tant Jeff était perfectionniste, alors il était assez mal reçu cet album dans un premier temps par le public et surtout par la critique. Et puis finalement, au fil des mois, il fait l'objet d'un engouement presque religieux porté par une tournée où les critiques découvrent en fait Jeff Buckley sur scène, ce lieu où il devient presque un dieu, un héros, une créature mythologique et où ses chansons originales, mais pas que, prennent toute leur dimension mystique. Le chanteur, on l'a entendu, s'agace de ce succès qui pollue en fait son rapport à la scène qui est le seul en fait, après tout, qui l'intéresse. Le studio le tétanise et d'ailleurs l'attente des critiques post-Grace va le tétaniser plus encore. Dans les 3 années qui suivent cette interview, il va tenter inlassablement de parvenir à quelque chose de satisfaisant en studio sans jamais y réussir. Coaché pourtant par Tom Verlaine, qui était l'un des meilleurs producteurs des années 90, il va enregistrer plusieurs trentaines de titres qu'il jugera médiocres. Il ne retrouve finalement l'inspiration qu'au printemps 1997. Et ce son d'attaque, enfin, pour enregistrer. Mais il n'en aura pas le temps. Il va mourir dans la nuit du 29 mai 97, ni d'une overdose, ni même par suicide, comme parfois on le pense, par méconnaissance, mais par excès de joie, d'enthousiasme, peut-être parce que justement ce soir-là, il était touché par la grâce de la création. Il est heureux, il a réussi à composer, il a un peu bu, mais pas plus que de raison. Avec un ami, il décide d'aller se baigner dans le fleuve Mississippi, après avoir admiré les étoiles et la lune qui brillent très fort ce soir-là. Sauf que Jeff a gardé ses chaussures, qui sont de gros godillots comme on en portait dans les années 90, et qu'un bateau passe. Emporté par le courant, Jeff disparaît et son corps ne remontera à la surface que 3 jours plus tard. Sa mort ressemble étrangement à ce que décrivent très précisément les premières paroles de cette chanson qu'on a entendue et qui inaugure son seul album. Il y a la lune qui veut rester assez longtemps pour voir les nuages m'emmener. Mon heure est venue et je n'ai pas peur de mourir. Rétrospectivement, tous vont se demander, mais d'où venait-elle cette voix si pure, si grave, si parfaite qui savait tout de Jeff Buckley?
I saw you walking only yesterday. When I ran to catch you, you disappeared and the street was gray. The candle died
tell you all gone, for the flame was too bright, now you are gone. I heard you laughing with your laugh of gold. When I called out to you, silence returned and the air was cold. The castle fell, now you are gone, and no more rings the bell, now you are gone. A letter on the day it rained. When I tore it open, there in my hands only ash remained. The castle fell, now you are gone, and no more rings the bell, now you are gone.
Cinq octaves, une propension à explorer à peu près tous les genres. Ce n'est pas Jeff qu'on entend, mais son père, Tim. Dans ce son, cette chanson Hallucinations, l'un des chefs-d'œuvre de sa période un peu psychédélique. Car Jeff Buckley n'était à ses débuts qu'un fils d'eux. Il n'était pas Jeff, mais The Buckley Kid. Le fils de Tim Buckley, cet artiste très singulier qui a commencé avec des sons blues et folk et qui a réussi au cours de sa brève et très productive carrière à explorer des styles aussi différents que le rock psychédélique mais aussi le free jazz, la funk et la soul la plus pure avant de mourir à 28 ans d'une surdose d'héroïne. Alors certains ont voulu voir dans le génie du fils, Jeff, la trace de celui du père, Tim, remarqué dès son premier album, notamment pour les propriétés exceptionnelles de sa voix, veloutée, profonde, capable de passer des plus graves aux aigus les plus maîtrisés, comme Jeff, lui aussi, le fera plus tard. Peut-être, mais la lecture est sans doute injuste, car la maîtrise du génie de Jeff Buckley peut difficilement devoir tant que ça à un père qu'il n'a jamais fréquenté, qu'il a en fait à peine connu. Car Tim Buckley a épousé très jeune, à 20 ans à peine, la mère de Jeff, Marie Guibert, une mélomane, une fan, qui fait très vite une grossesse nerveuse. Elle est enceinte, mais il n'y a en réalité aucun fœtus. Tim alors, qui est déjà assez accro à la drogue, devient paranoïaque et s'en détache. Et quand finalement elle tombe vraiment enceinte du petit Jeff, Tim prend peur et la quitte alors que le bébé n'a que quelques mois. Il va croiser cet enfant qui est le sien, qu'à de très rares occasions. Il l'invite à l'un des concerts qui sera finalement son dernier, son fils le verra donc sur scène, mais quand il meurt, le petit Jeff qui a 9 ans n'est même pas convié aux funérailles tant leurs liens sont ténus. Le peu d'amour que Tim a eu pour son fils, il l'a mis tout entier dans deux chansons. La première, déchirante, évoque le lien impossible avec cet enfant qu'il a abandonné, chanson remplie de métaphores aquatiques, troublante aussi comme elle est prophétique. Elle s'appelle « I never asked to be your mountain ». Oh, je n'ai jamais demandé à être ta montagne, je me noie en retournant vers toi. Je ne peux nager dans tes eaux et tu ne peux marcher sur mes terres. Cette chanson, comme toutes celles de son père, Jeff dira que toute sa vie, il les a très peu, voire pas du tout écoutées parce qu'elles étaient bannies du foyer maternel. Pourtant, en 91, quand la scène rock décide d'organiser un concert en hommage à Tim Buckley, le jeune Jeff, 25 ans, se présente sur scène. On découvre qu'il existe et qu'il chante. Et c'est bien cette chanson, précisément, que le jeune Jeff, inconnu, va reprendre sur scène.
He never has to fly. Where as he comes his love and tells her not to cry. Alors la prise de son est bien sûr approximative, mais la force dans la voix de Jeff est bien là. C'est grâce à ce concert et cette interprétation complètement poignante de cette chanson qu'on découvre que Tim Buckley a un fils, il en avait très peu parlé autour de lui, qui lui aussi est musicien et qu'en fait il n'a pas chômé. Car pendant que Tim Buckley vivait sa vie, le jeune Jeff a été formé par sa mère, véritable mélomane, qui jouait à peu près au piano tout ce qu'elle aimait, de Beethoven aux Beatles, en passant par les très grands mélodistes français. Et le jeune Jeff a profité de l'héritage qu'il a touché vers ses 10 ans à la mort de son père pour se former pendant toute son adolescence à la musique. Oui, mais surtout, surtout pas au rock. Au jazz, car son but au jeune Jeff, c'est d'être le plus loin possible du chemin de son père. À 18 ans, il s'inscrit au Guitar Institute Technologies de Los Angeles, où il va passer près de 17 heures par jour à travailler inlassablement, notamment le style jazz fusion, c'est-à-dire le seul style de jazz que son père n'a pas exploré. Avec deux autres élèves âgés de 15 ans, il forme un trio. Âgé de 20 ans, il forme un trio et va s'ouvrir à d'autres styles. Il va jouer du jazz, de la bossa ou encore du reggae. C'est son premier groupe professionnel, mais la voix, qui est un petit peu sa marque de fabrique, elle va emprunter à d'autres plutôt qu'au père. Et si Tim Buckley a été une influence, peut-être c'est parce que tout simplement elle lui a permis de se construire contre lui. La dernière piste de son album, de son unique album Grace, est une chanson qui s'appelle Dream Brother. Et il n'y a pas de hasard, c'est tout de même une référence à l'autre titre que son père lui avait dédié. Une chanson qui s'appelait Dream Letter et dans lequel Tim Buckley exprimait un début de regret de ne jamais avoir rencontré ce fils. Dans cette chanson Réponse qu'il publie dans Grace, plus de 20 ans après la mort de son père, Jeff s'adresse à son meilleur ami qui était sur le point à l'époque d'abandonner sa petite copine alors qu'elle était enceinte. Et dans cette chanson, Jeff Buckley le conjure de ne pas faire cela. Rêve mon frère, ne fais pas comme celui qui m'a fait vieux dès l'enfance, ne fais pas comme celui qui ne m'a laissé que son nom.
Sleeping near his twin, the pictures go wild in a rush of wind. A dark angel hears shuffling in, watching over them with his black feather wings hair, her green eyes bloom goodbyes with her head in her hands and your kiss on the lips of another. Dream, brother, with your tears scattered round the world. Like the one who made me so old, don't be like the one who left behind his name, 'cause they're waiting for you like I waited for my land. Nobody ever came.
people who I'd like to emulate.
Les artistes qui m'inspirent.
Johnny Mitchell without the cigarettes.
Johnny Mitchell sans les cigarettes.
Lou Reed.
Lou Reed.
Bob Dylan.
Bob Dylan.
He still keeps people out of this fucking world so he can work.
Car il arrive à garder les gens à l'écart pour qu'ils puissent travailler, bordel. Leonard Cohen.
Still, he delivers a song and it's completely untouchable.
Car il arrive encore à livrer une chanson et elle reste intouchable.
But I don't really want to emulate any of those people. Really.
Blague à part, je ne veux imiter aucune de ces personnes.
But I really admire them.
Mais je les admire beaucoup.
Those are the people that I feel really can still write.
Eux, ils savent encore écrire.
Really can still have a, they're at the top of their powers because you don't really need to own the world when you're 22.
Car franchement, t'as pas besoin d'être le roi du monde à 22, 23 ans. C'est des conneries. T'en sais quoi à cet âge-là?
Bust out and really explode when you're 47, 48.
Il faut exploser à 47, 48 ans.
Muddy Waters, John Lee Hooker.
Comme Muddy Waters ou John Lee Hooker.
Jeff Buckley, quand sortirez-vous un nouvel album?
When I'm 47, 48.
Quand j'aurai 47 ans ou 48 ans.
Like John Lee Hooker or Muddy Waters.
Comme Muddy Waters ou John Lee Hooker.
Malheureusement pour nous, Jeff Buckley n'a jamais atteint les 47 ans, mais toute sa vie, toute sa carrière ont en fait auront été un exercice perpétuel de mise en scène de ses admirations. Dans cette interview qui est assez fascinante en fait, il évoque les artistes dont il admire la démarche. En réalité, les artistes auxquels il aspire, qu'il aspire à égaler dans la proposition artistique même qu'il fait, dont certains comme Bob Dylan et Leonard Cohen qu'il va évidemment beaucoup reprendre. Mais il manque des noms, beaucoup de noms dans cette liste. Ceux des artistes qu'il a véritablement tenté non seulement d'égaler mais surtout d'imiter à ses débuts. Les artistes qu'il a presque avalés pour les faire renaître à sa voix. Car dans la maison de sa mère, pendant toute son enfance, si on écoutait peu la musique de son père, Tim Buckley, on écoutait beaucoup, chez Jeff, Johnny Mitchell, mais aussi Patti Smith, et des grandes voix comme Barbara Streisand ou Carole King. Et son beau-père aussi va jouer un rôle très important. Il s'appelle Ron Moorhead. Il va lui faire découvrir la pop, bien sûr les Beatles, Simon et Garfunkel, mais aussi le rock, notamment les Moody Blues, Crosby, Steele & Cash, les Doors et évidemment Led Zeppelin. D'ailleurs en 86, quand il sort de son école de jazz, Jeff Buckley, qui n'a que 20 ans, va rencontrer un homme qui s'appelle Michael Klaus, qui va lui mettre le pied à l'étrier. Il est propriétaire dans la petite ville de Glendale d'un studio d'enregistrement où plusieurs groupes viennent enregistrer. Il devient assez vite ami avec cet homme qui lui propose d'enregistrer des chansons et Buckley compose, enregistre des arrangements pour les démos des clients de Michael. Et il essaye désespérément de composer. Il veut écrire un album, mais la pression est très grande. Je veux faire un album qui tout simplement fasse oublier Led Zeppelin 2. Des sons de Led Zeppelin que Jeff Buckley aimait le plus. Jeff Buckley qui admirait beaucoup et s'est dit s'être inspiré énormément de la voix de Robert Plant. Une voix vulnérable, une voix qui parfois chantait faux, mais une voix extrêmement douce. Si on enlève les guitares, en réalité, Robert Plant aurait fait un très bon chanteur de R&B, disait de lui Jeff Buckley, et on a du mal à lui donner tort. Led Zeppelin fait partie des groupes que Jeff Buckley va beaucoup reprendre. Quand, à 25 ans, et qu'il n'a toujours pas de répertoire, eh bien, il est repéré. En 91, après ce fameux concert en hommage à son père, Jeff Buckley, qui ne devait rester que sur la côte Est, à New York, quelques jours, est finalement harcelé par les gens du métier, qui ont très envie, finalement, de sortir le disque d'un héritier Buckley. Il va donc s'installer dans un petit bar, le ciné-bar de l'East Village, qui a déjà vu démarrer plusieurs grandes figures des années 90, notamment Sinéad O'Connor. Et dans ce lieu, à l'ambiance assez familiale finalement, Jeff Buckley va commencer à se produire quasiment tous les soirs dans des sessions qui peuvent durer plusieurs heures. Le tout premier EP de Jeff Buckley, intitulé Live at Sinéad, est une des captations de ces moments inouïs. Moments qui vont fonctionner en fait comme le laboratoire du chanteur. Sa matrice, c'est vraiment le ciné-bar, sa genèse, sa résidence, sa masterclass. C'est là qu'il va reprendre inlassablement, triturer tout ce qui l'inspire. Écoutez par exemple cette reprise de When the Levee Breaks, toujours de Led Zeppelin. L'héritage blues, très clair dans cette reprise de When the Levee Breaks de Led Zeppelin, dans la voix de Jeff Buckley, on l'entend bien, on est toujours donc au ciné-bar dans ces années 90. C'est là que les reprises vont s'enchaîner. Jeff Buckley reste plusieurs heures dans ce bar. Parfois, il répond aux commandes des spectateurs qui passent par là. Mais il va avoir à cœur de travailler, rechanter, re-re-chanter tous les gens qu'il a écoutés enfant et qu'il admire. Schubert, Bad Brains, Robert Johnson, Judy Garland. Et oui, effectivement, beaucoup de femmes. Parmi les artistes qu'il reprend, il y en a une qui tient une place de choix. C'est Nina Simone, il reprend jusqu'à l'épuisement, on en a près de 40 versions, sa chanson Lilac Wine, qu'il finira même par intégrer à l'album Grace, tant elle a compté dans sa vie. Nina Simone lui apprend beaucoup, l'influence beaucoup dans sa prosodie, c'est particulièrement, très particulièrement audible, dans une reprise d'une autre chanson de Nina Simone, No Other Woman, où il calque presque sa prosodie et ses fioritures vocales sur celle de la chanson originale de Nina Simone. Écoutez, c'est frappant.
The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair anywhere. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys, it's scattered everywhere. And when her old man comes
comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by your side, it's such a change from old routine. But the other woman.
Les gâteaux, particulièrement androgyne mais presque lyrique de Nina Simone, qui avait bouleversé dans les années 60 la manière dont les chanteuses de jazz pouvaient oser chanter, va jouer le même rôle pour Jeff Buckley, qui lui aussi décloisonne presque les genres et la prosodie, cette fois-ci dans le registre du rock. Écoutez.
The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair anywhere. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh cut flowers in each room. And there are never toys scattered everywhere. And when her old man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when he's by her side, it's such a change from old routine.
Absolu de Jeff Buckley dans cette reprise de The Other Woman montre bien ce que lui doivent toute une série de compositions originales, mais tout simplement de reprises. Il y a sans doute plus de Nina Simone que de Leonard Cohen dans la reprise de Alléluia. On entend bien comme il lui reprend son fameux legato tout en contrôle et en relâchement. En réalité, c'est sans doute les femmes qui ont le plus influencé la manière de chanter de Jeff Buckley, dont il emprunte, on l'a dit, à Nina Simone, mais aussi à une autre de ses grandes influences qui date de l'enfance, car chez lui, on écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup Edith Piaf.
À propos de Edith Piaf, Jeff Buckley, qu'est-ce qui vous fascine chez elle ?
Sa voix, ses chansons,
her tragedy,
son côté tragique,
her sexiness,
sa sensualité, son romantisme,
how completely street she is,
son côté très populaire, très française,
French in a way I've
française d'une façon que j'admire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça.
She just captured my imagination,
elle a frappé mon imagination.
Songs are untouchable.
Ces chansons sont intouchables.
Used to know a little square so long ago when I was small. All summer long it had a fair, wonderful fair with swings and all. I used to love my little fair, and at the close of every day I could be found dancing around a merry-go-round
that used to play. Tumble from the sky. If the sea should suddenly run dry, if you love me, really love me, let it happen, darling.
Le fameux Édith Piaf Medley de Jeff Buckley. On est toujours dans ce fameux concert du Bataclan, dans lequel, au cours duquel Jeff Buckley fait cette déclaration d'amour à cette chanteuse française qu'il admire énormément pour le plus grand plaisir du public qui nous manque les jeux de scène. On le regrettera toute notre vie. Jeff Buckley qui n'a pas peur, vous l'entendez ici, à la fois d'utiliser une voix de falsetto qu'il ne maîtrise pas tout à fait, qui n'a pas peur de se livrer, qui n'a pas peur d'aller dans la douceur, dans la fragilité, voire carrément dans la féminité. S'il l'ose, c'est aussi parce qu'il a beaucoup, beaucoup écouté de musique sacrée, on l'a dit. Il va aussi décider d'en reprendre. Toujours dans Grace, on trouve une reprise d'un Carols de Noël qui date de la Renaissance et qui en a étonné plus d'un. Le Corpus Christi Carols. On a du mal à remonter à l'origine de ce chant que Jeff Buckley choisit d'intégrer au milieu d'un album théoriquement rock. Il aurait été écrit, composé par un apprenti boucher aux alentours de 1504 en Angleterre. Ces paroles qui sont à la fois religieuses mais très mystérieuses encore aujourd'hui évoquent à la fois la tradition des chants de Noël, celle de la quête du Saint Graal, mais les images très violentes et très mystiques qu'il convoque laisse penser qu'il pourrait être aussi une allusion voilée à l'exécution de la reine Anne Boleyn par Henri VIII. Il se transmet ce chant, on ne sait pas trop comment, dans le répertoire sacré mais populaire, avant d'être redécouvert et réarrangé par Benjamin Britten dans les années 60. Benjamin Britten, immense compositeur anglais, qui mieux que personne s'intéresse au répertoire choral qu'on fait chanter aux très jeunes enfants, aux très jeunes garçons précisément, avant la mue. La voix de Jeff Buckley cherche à imiter ce type de voix, des voix qui sont atemporelles, résolument asexuées, des voix de l'enfance, des voix d'ange, des voix d'avant la sexualité, d'avant l'âge adulte, des voix de la grâce pure, comme vous allez l'entendre ici.
Thank you. gold so red.
C'est merveilleux. Il joue de la guitare comme du sitar. C'est-à-dire, c'est son âme qui monte. Hein. C'est comme disait Pavlova. Vous voyez pas que j'ai une petite arabesque, mais c'est mon âme qui monte. Alors vous voyez une très grande arabesque. Il y a quelque chose d'une telle justesse, d'une délicatesse et à la fois d'une force. C'est paradoxal. C'est très doux, dolcissimo, fortissimo. C'est les deux. C'est un ravissement. C'est un ravissement et je pense qu'on peut danser immobile. Et je pense qu'il y a certaines choses comme le ravissement, l'extase et la transe. Ou alors je le ferai en dansant comme un derviche, donc immobile. Une partie immobile et une autre mouvante, oui.
La chorégraphe Francesca Latuada qui évoque la voix, ce que lui fait la voix de Jeff Buckley et qui invoque la transe. La transe, c'est l'autre facette de la musique religieuse que Jeff Buckley a beaucoup, beaucoup écouté. Lorsqu'il a 20 ans, sa colocataire lui fait découvrir Nusrat Fateh Ali Khan, l'un des plus grands maîtres du Qawwali, cette musique de soufi, donc cette musique de transe qui vient du Pakistan. Nusrat Fateh Ali est l'un des probablement des plus grands représentants de ce courant musical que Jeff Buckley découvre à 20 ans et dont il va inlassablement écouter tous les disques. Écoutez ce que fait Nusrat Fateh Ali Khan. Le Qawwali demande une maîtrise technique vocale hors du commun. Jeff Buckley aura à cœur toute sa vie de la reproduire.
Raja chak na akho kudiyo enu chak kandi sharmava
Raja chak na akho kudiyo enu chak kandi ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ
ਨਾ ਜਿਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਸਦਾਵਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕੋ ਸੁਣੇ ਤਬ ਚਾਕ ਦੀ ਚਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾ
ਰੱਬ ਕੋ ਸੁਣੇ ਤਬ ਚਾਕ ਦੀ ਚਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ
ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਆਇਆ
ਇਹਨੇ ਅਨੋਖਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਆਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦਰਾਇਆ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ
La voix infiniment puissante, très maîtrisée de Nusrat Fateh Ali Khan, que Jeff Buckley, on a dit, a beaucoup écouté, qui développe une grande carrière occidentale et qui rencontre Jeff Buckley dans les années 90, qui va mourir seulement 3 mois après Jeff Buckley, lui aussi à un âge précoce, 48 ans. Il avait eu le temps de dédier Nusrat Fateh Ali Khan, son tout dernier album, à Jeff Buckley, disparu en mai. Jeff Buckley qui, au moindre de ses concerts, n'hésitait pas à invoquer Nusrat Fateh Ali Khan, dont on disait, Jeff Buckley, qu'il était l'un des seuls en Occident à pouvoir le reprendre. Écoutez ce live à Ciné, où il en profite pour faire découvrir à son auditoire cet homme qu'il admire.
Huh? Nusrat Fateh Ali Khan? He's my Elvis. That's my guy. Listen to him every day.
Nusrat Fateh Ali Khan, c'est mon Elvis. Je l'écoute tous les jours. Je sais tout sur lui. Vous savez, comme dans ce film, Diva, avec ce type qui est obsédé par une chanteuse. Je suis comme ça, moi, avec Nusrat Fateh Ali Khan. Je connais même son surnom quand il était enfant, pour vous dire. Je vais juste vous jouer un tout petit bout de la première chanson que j'ai jamais entendue de lui. On vous invite à découvrir les 7 minutes de Kawali qu'offre Jeff Buckley à un auditoire conquis au Cinébar en 93. Vous entendez bien ce que doit sans doute le reste de l'œuvre de Jeff Buckley à cette influence majeure dans sa vie. Si on est un peu précis, on peut très bien reconnaître ce que cette maîtrise approximative et totalement autodidacte du Kawali va donner dans Grace, par exemple, dans l'une de mes chansons préférées sur laquelle nous quittons, So Real.
Oh, that was reciprocation. I fell asleep at the gate. I never stepped on the cracks, 'cause I thought I'd hurt my mother. And I couldn't awake from the nightmare. It sucked me in and pulled me under.
La célébration de la beauté de l'instant présent. L'instant présent qui est si réel. Le génie de Jeff Buckley, on espère que vous en vous aura convaincu d'écouter autre chose qu'Alléluia. Merci à Dalia qui était aujourd'hui à la prise de son pour cette émission. Merci à Nicolas Berger qui l'a brillamment réalisé. Merci à Lou Quevauvillier qui m'a aidé dans sa préparation et qui nous a trouvé de belles archives. Merci beaucoup à Fanny Weinzapflen de m'avoir présenté Jeff Buckley lorsque j'étais adolescente. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture et sur le site en réalité de Radio France ainsi que sur son application. Allez faire un tour.